Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, pour cette nouvelle émission Éclairage en coproduction avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, l'ONCFS, je vous propose de vous intéresser à la perdrix. Qu'elle soit grise, rouge ou qu'on l'appelle Bartavelle dans le sud de la France, comme y fait référence Marcel Pagnol dans La gloire de mon père, la perdrix occupe une bonne partie du territoire français, mais leur population sur un plan général régresse. Et notre invité nous en donnera les détails dans quelques instants. Faut-il repeupler certains départements? Faut-il nourrir ces oiseaux? Doit-on aménager leur environnement? Et quelles sont les nouvelles observations réalisées par les scientifiques et leurs conclusions pour une coexistence harmonieuse entre oiseaux, agriculteurs et chasseurs? Autant de questions auxquelles notre invité va pouvoir répondre. François Retz, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous supervisez la recherche et les études sur la petite faune de plaine et notamment donc la perdrix. Alors, nous allons bien sûr parler de la perdrix grise, de la perdrix rouge, mais vous vouliez tout d'abord nous préciser que vous n'allez pas forcément nous parler de la Bartavelle. Pourquoi, François Retz?
Eh bien, en fait, je supervise les études sur la petite faune de plaine. Donc, en fait, en plaine, on va trouver des perdrix grises et des perdrix rouges. On va trouver aussi des lapins, des lièvres et des faisans, mais on ne trouve pas de Bartavelle, puisque la Bartavelle est une autre espèce de perdrix rouge, en quelque sorte, mais qu'on ne trouve qu'en montagne, dans les Alpes.
Donc, c'est une espèce à part entière, une sous-espèce à part entière de la perdrix rouge, la Bartavelle?
C'est une espèce à part entière.
À part entière.
Par contre, chez la perdrix grise, il y a deux sous-espèces en France. Il y a la perdrix grise de plaine, dont je m'occupe, et il y a aussi la perdrix grise des Pyrénées, qui, comme son nom l'indique, qui habite les Pyrénées à assez haute altitude.
Alors, avec vous, on va entrer dans le vif du sujet, François Retz. Démarrons peut-être par un état des lieux des différentes populations des perdrix grises et des perdrix rouges. Où se situent-elles sur le plan géographique? Donc, pour les perdrix grises, en plaine, pour les perdrix grises des Pyrénées, dans les Pyrénées. Mais brossons déjà le panorama sur le plan géographique. Et puis, vous allez pouvoir nous dire aussi quelles sont les espèces qui sont en régression et d'autres qui sont peut-être en population stagnante.
Alors, donc sur les deux espèces, la perdrix grise est présente grosso modo sur les deux tiers nord de la France. Les plus fortes densités, la plus grande abondance, c'est plutôt dans les grandes plaines céréalières du bassin parisien, du nord, de Picardie. La perdrix rouge, on va la trouver dans les deux tiers sud. Donc il y a en fait une petite tranche au milieu de la France où on trouve les deux espèces présentes simultanément au même endroit.
Est-ce qu'on connaît ces effectifs?
Alors, les effectifs de perdrix grise, l'effectif a été estimé il y a assez récemment suite à une enquête qui a été menée sur la situation en 2008 et qui fixe grosso modo, puisque c'est quand même assez approximatif, l'effectif global français à environ 800 000 couples.
Pour les grises.
Pour les grises. Et pour les rouges, la marge d'erreur est encore plus importante, mais on estime qu'il y aurait de l'ordre de 300 000 perdrix rouges, donc sur l'ensemble du territoire national.
Et alors, justement, est-ce qu'on observe donc une stagnation ou au contraire des effectifs en baisse selon les espèces?
Les deux espèces suivent à peu près les mêmes trajectoires d'évolution des effectifs. L'évolution récente est plutôt une stagnation, mais par contre, ce sont deux espèces qui ont assez fortement régressé dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Et on l'explique pourquoi?
Sans aucun doute des problèmes d'évolution d'habitat.
Alors, ça se traduit comment en fait? C'est par exemple l'agriculture intensive. Qu'est-ce qu'on appelle l'évolution de l'habitat?
Alors, l'évolution de l'habitat, pour la perdrix grise, c'est effectivement essentiellement l'agriculture qui, dans le courant du XXe siècle, et dans sa deuxième partie, s'est beaucoup industrialisée avec la mécanisation, qui s'est traduit aussi par l'agrandissement des parcelles, par donc une destruction, je dirais, de tout ce qui est élément fixe du paysage, enfin un certain nombre d'éléments qui ont disparu. Pour la perdrix rouge dans le sud, c'est peut-être plutôt l'inverse, puisqu'on a des milieux qui se sont fermés, où l'agriculture a été abandonnée parce qu'elle n'était plus rentable, ce qu'on appelle la déprise agricole. Donc en fait, c'est peut-être deux évolutions inverses de l'agriculture qui a fait que les perdrix ont évolué, les deux espèces de perdrix ont évolué de façon parallèle. Alors, j'ai pas parlé non plus de l'utilisation de produits qui ont, c'est certain, un impact indirect, les produits phytosanitaires, les herbicides, les insecticides, qui ont éliminé des sources de nourriture pour les deux espèces de perdrix. et puis qui ont pu aussi avoir, mais cela, ça a été démontré pour certains produits, et aujourd'hui, ces produits n'existent plus. Mais il subsiste quand même certains doutes pour d'autres, donc des problèmes de mortalité directe.
Liés donc, j'imagine, plutôt aux perdrix grises, puisque vous faites référence, j'imagine, aux perdrix qui sont dans les plaines. Et donc,
oui, voilà. Bon, c'est un petit peu schématique ce que j'ai dit pour la rouge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas régressé que parce qu'il y avait moins d'agriculture. Elle a régressé aussi dans les milieux agricoles, dans les vignes par exemple, ou dans d'autres types de cultures.
Mais ces produits phytosanitaires auxquels vous faites allusion, il existe des études qui prouvent justement par A plus B qu'une forte utilisation des produits phytosanitaires, il y a une corrélation entre une forte utilisation des produits phytosanitaires et une baisse des effectifs justement de ces oiseaux, de ces perdrix, ou c'est juste une supputation?
C'est une hypothèse, effectivement. Non, il ne faut pas accuser les produits phytosanitaires de tous les maux.
C'est un constat.
C'est simplement que ces produits ont, par leur action sur le terrain, et ils sont faits pour ça, induit forcément une régression du nombre d'insectes, du nombre de plantes de mauvaises herbes dans les champs, donc réduit la ressource alimentaire pour les perdrix. Après, il y a d'autres phénomènes qui peuvent être des phénomènes d'intoxication qui ont été démontrés pour certains produits et dont la plupart n'existent plus aujourd'hui, et qu'il peut exister encore d'autres produits qui peuvent avoir un effet. Mais là, il y a une certaine vigilance qui est développée sur ce thème.
Alors justement, on va venir au propre de vos recherches. Vous nous disiez que depuis le milieu du XXe siècle, on observait donc une baisse des effectifs, même si aujourd'hui on est dans la stagnation. Quels sont les moyens mis en œuvre pour retrouver des effectifs plus importants au sein des perdrix grises et des perdrix rouges?
Alors, des effectifs plus importants, les moyens qui ont été mis en œuvre, c'est déjà les efforts qui ont été faits par les chasseurs pour essayer de mieux gérer les deux espèces. Si on se replace dans le contexte du milieu du XXe siècle, on était à la chasse-cueillette, où les chasseurs sortaient au mois de septembre avec leurs fusils et puis prélevaient ce qu'ils voyaient, sans grande limitation, pendant la période d'ouverture de la chasse. Aujourd'hui, et notamment pour la perdrix grise dans la moitié nord de la France, la situation a bien souvent complètement changé, puisque les chasseurs se définissent des limitations de niveau de prélèvement, de sorte à les adapter à l'état des populations. Donc déjà, il y a une démarche de conservation des populations de la part du monde de la chasse.
Et qui diffère, j'imagine, selon les départements, selon les régions concernées, selon les effectifs.
Tout à fait, et ça dépend de la politique locale des chasseurs. Donc ça, c'est le premier niveau. Puis le deuxième niveau, c'est d'essayer de faire en sorte que les perdrix aient un habitat qui soit plus favorable ou moins défavorable. Donc, par exemple, pour la perdrix rouge, ça va être de rouvrir des milieux. Donc, des zones qui sont devenues en friche suite à l'abandon de l'agriculture, à l'arrachage de vignes, de choses comme ça. Eh bien, dans ces cas-là, on va essayer de faire en sorte que les chasseurs implantent des céréales. On a eu un programme européen même qui a été mis en place sur une zone pour nous aider à expérimenter ce type d'aménagement de l'habitat où on favorise donc l'ouverture des milieux de façon à ce que les perdrix trouvent plus facilement une source de nourriture, de nidification, etc. Pour la perdrix grise dans le nord de la France, enfin dans la moitié nord de la France, on va peut-être plutôt essayer de limiter l'irrigation, on va essayer de faire en sorte que les perdrix bénéficient de plus de bandes d'herbes, de petits buissons, de bosquets pour se réfugier, de choses de ce type-là. Donc là, c'est effectivement un apport des chasseurs en relation avec le monde agricole pour essayer de faire en sorte de préserver l'habitat des perdrix.
Finalement, il s'agit de reconstituer un milieu qui s'est petit à petit transformé au profit d'autres activités, notamment l'activité agricole. C'est de retrouver donc des haies, comme vous le disiez, et des espaces réservés à l'alimentation de ces oiseaux pour qu'ils puissent de nouveau nicher et se développer.
Tout à fait. Alors, il ne s'agit pas de recréer complètement. On ne reviendra jamais à l'agriculture telle qu'elle était il y a 50 ans ou plus. Mais par contre, c'est plus des aménagements qu'on espère le moins ponctuel possible, qui permettent quand même aux oiseaux de retrouver un certain milieu de vie favorable.
Qu'en est-il de l'agrainage concernant les perdrix? Est-ce que les résultats démontrent l'efficacité de l'agrainage ou est-ce qu'au contraire, ça ne sert finalement pas à grand-chose, mis à part les champs dont vous avez parlé, qui permettent en fait, les champs de céréales qui permettent d'alimenter ces oiseaux? L'agrainage à côté est-il un élément positif ou pas spécialement?
Alors l'agrainage, d'un point de vue purement biologique, peut être une bonne chose, puisque les oiseaux peuvent souffrir à certains moments du cycle de leur vie annuelle d'un manque de ressources alimentaires, donc ça peut tout à fait être positif. Bon, c'est vrai que dans les expérimentations qui ont pu être menées sur le sujet par l'Office de la chasse et de la faune sauvage, en partenariat avec les fédérations départementales des chasseurs, eh bien, il y a des cas où ça semblait bien marcher, puis d'autres cas où on n'a pas vu de résultats tangibles de l'agrainage. Donc, ça peut dépendre du contexte. Mais bon, globalement, on partira sur l'a priori que l'agrainage en tant que tel peut être favorable aux deux espèces.
Ça dépend des départements, ça dépend des politiques locales mises en œuvre.
Ça peut dépendre aussi du contexte dans lequel vivent ces populations de perdrix, les rendre plus susceptibles de répondre positivement à ce type d'aménagement. Oui, ça peut dépendre des cultures qui sont en place, ça peut dépendre du contexte, des conditions climatiques aussi, de tas de choses. Bon, les conditions climatiques déterminent une grande partie du succès reproducteur des deux espèces. Bon, et c'est vrai que l'agrainage peut améliorer les choses certaines années, mais peut-être pas d'autres. Donc ça rend les expérimentations difficiles et pas toujours concluantes.
Pour reconstituer des effectifs, il y a aussi des lâchers de perdrix d'élevage. Quel est votre regard justement de scientifique sur cette question-là? Vous trouvez que c'est opportun ou ça dépend des situations? Qu'en est-il selon vous de cette situation?
Alors,
question délicate.
Question délicate, oui et non. L'élevage des perdrix a été développé notamment par l'Office national de la chasse dans les années 60-70 suite à la mise au point de techniques d'élevage qui étaient assez performantes. Puis en ce temps-là, bon, on parlait peu de développement durable, relativement peu d'écologie. Et puisque les espèces étaient en régression sur le terrain, eh bien, on allait apporter un complément, voire un supplétif, l'absence de perdrix sauvages par des perdrix d'élevage. Au fil des années, les chasseurs ont pris conscience du fait que les lâchers d'oiseaux d'élevage n'étaient pas forcément la seule solution à la régression des populations de perdrix et qu'il valait peut-être mieux moins chasser, mais chasser du gibier sauvage. C'est ce qui s'est passé pour la perdrix grise dans la moitié nord de la France, où lâche beaucoup moins de perdrix aujourd'hui qu'il ne s'en lâchait il y a 30 ou 40 ans, et où les chasseurs ont mis en place des outils de gestion et, je dirais, prélèvent beaucoup moins de perdrix qu'ils n'en prélevaient il y a 30 ou 40 ans.
J'ai cru comprendre justement dans les rapports que l'on trouve sur le site internet de l'ONCFS que justement faire des lâchers de perdrix d'élevage sans comprendre l'évolution du milieu, finalement ça n'avait pas beaucoup d'intérêt parce que on constatait également une mort naturelle très importante qui était due justement à une évolution du milieu qu'on ne maîtrisait pas encore, qu'on n'avait pas encore vraiment étudié, que donc faire un lâcher sans comprendre quel était le cadre et l'évolution du cadre, il y avait une inadéquation.
Pas les lâchers, comme je le disais, c'est essentiellement dans l'optique. Enfin, il y a plusieurs sortes de lâchers. Quand on parle de lâchers pour la chasse, des lâchers qui se font en fin d'été, voire même pendant la période de chasse, ce sont des lâchers qui sont faits pour compenser un manque de gibier naturel et pour aboutir à la satisfaction immédiate des chasseurs. Dans ce type de lâcher, bon, après, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a juste un élément sur lequel il faut faire attention, c'est que les chasseurs qui lâchent du gibier de ce type-là peuvent penser épargner les oiseaux naturels et finalement peuvent aussi prélever du naturel. Donc ça peut être un peu dangereux pour les populations sauvages.
Avec des risques d'hybridation aussi dans certains cas.
Avec dans certains cas des risques d'hybridation. Enfin, on parlera plutôt de pollution génétique, effectivement, si les oiseaux qui sont lâchés ne présentent pas un génotype comparable à ceux des oiseaux sauvages. Ce qui peut être le cas, parfois, ça peut être le cas autrefois, notamment pour la perdrix rouge. Bon, on y a remédié par des moyens génétiques. Aujourd'hui, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, avec ses partenaires généticiens, Fédération des chasseurs, a mis au point une technique de test génétique qui permet de différencier de la perdrix rouge, par exemple, au patrimoine génétique pur par rapport à des perdrix rouges hybridées par d'autres espèces.
Vous nous parliez en début d'émission justement de ces effectifs de couples de perdrix grises et de perdrix rouges. Donc vous nous disiez 800 000 couples de perdrix grises à peu près hein, sur le territoire, sur l'ensemble du territoire.
Oui, à peu près c'est plus ou moins 20 à 30% hein, quand même.
20 à 30%, mais justement oui. On va y venir. Et puis donc vous nous disiez à peu près 300 000 perdrix,
oui,
couples de perdrix rouges.
Entre 150 000 et 600 000 si on veut être vraiment...
D'accord, une fourchette très large.
Une fourchette très large, oui.
Justement, comment vous réalisez ces comptages? J'imagine que ce n'est pas forcément évident de, comme vous le disiez, réaliser un effet de ces oiseaux. Comment ça se passe?
Oui, alors les comptages sont des techniques qui ont été parmi les premiers travaux menés par l'Office de la chasse et ses partenaires. Tout simplement, tout à l'heure, je parlais de la gestion des espèces par les chasseurs. Bah, pour gérer, il faut compter. Pour faire des études, il faut aussi compter. Donc, ce sont des méthodes qui, effectivement, sont la base de tout travail sur le terrain en matière de suivi de démographie des espèces. Alors, pour la perdrix grise, dans le centre-nord de la France, donc vous imaginez des grandes plaines céréalières ouvertes. Donc, la méthode qui est la plus adaptée dans ces milieux-là, c'est la battue à blanc.
Ce sont des battues.
Voilà. Donc, une battue à blanc, c'est-à-dire sans fusil, évidemment.
Donc, vous êtes très nombreux sur une large
paire. Voilà. Donc, ça va être un alignement de 20, 30 et 40 personnes, le plus souvent bénévoles, qui vont marcher dans la plaine, avancer tous ensemble en ligne, et qui vont rabattre les oiseaux sur des observateurs qui vont être postés tous les 200 mètres tout autour de la zone qui va être comptée. Donc ça, c'est une méthode très efficace.
Et après, vous établissez voilà tant de coupes à l'hectare, par exemple.
Voilà, enfin, on raisonne plutôt en 100 hectares.
D'accord.
Pour la perdrix rouge, les techniques sont un peu différentes parce que, en fin de compte, la perdrix rouge, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un oiseau qui vit dans des milieux plus fermés, voire des milieux incultes, en garrigue. Donc on peut les compter, bien sûr, quand elles sont présentes dans les plaines céréalières du sud du bassin parisien, on les compte avec les perdrix grises en battu. Mais par contre, dans le sud de la France, dans les garrigues, là, il faut employer d'autres méthodes. Et la seule technique quasi universelle qu'on ait, c'est les comptages au chant. Alors, le problème du comptage au chant, c'est que les perdrix rouges, elles chantent pas de façon très forte spontanément. Et pour pouvoir les détecter de façon plus efficace, eh bien, on va émettre un chant de mâle avec un magnétophone. Enfin, on ne parle plus de magnétophone, aujourd'hui, on parle de MP3. Et grâce à ce chant enregistré sur MP3, eh bien, on va susciter la réponse de...
Vous attendez les potentiels retours voilà. Des perdrix femelles.
C'est les autres coqs qui...
Ce sont les autres mâles.
Les autres mâles qui vont se manifester. Et ça va être donc une bonne solution pour les dénombrer.
Parce que du coup, si vous comptez des mâles, il y a donc la même chose en femelles, j'imagine. S'il y a 6 mâles, il doit y avoir 6 femelles à peu près.
À peu près, chez les perdrix, c'est à peu près de cet ordre-là. Oui. Mm-hmm. Bon, il y a un petit peu plus de mâles que de femelles, mais grosso modo, oui, ce sont deux espèces où il y a quasiment autant de mâles que de femelles.
Mais alors du coup, il vous faut un réseau, j'imagine, très important de bénévoles, parce que ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de travail.
Oui, alors pour ce qui est de la perdrix grise, dans la moitié nord de la France, on a des milliers d'hectares qui sont comptés chaque printemps pour dénombrer les reproducteurs, tous les ans. Et ça mobilise des milliers de personnes, la plupart du temps des chasseurs, qui, donc, un samedi ou un dimanche, dans le courant du mois de mars ou au début du mois d'avril, vont aller battre la campagne pour savoir quelle est l'abondance de leur gibier préféré. Et puis, dans le sud de la France, pour la perdrix rouge, ça va être aussi soit des bénévoles chasseurs, soit des professionnels qui vont, à l'aide de ce MP3 dont je vous parlais, vont parcourir des circuits et compter sur des points d'écoute les perdrix rouges.
Alors aujourd'hui, quels sont les travaux actuels de l'ONCFS concernant justement la perdrix? Quelles sont vos recherches et sur quels travaux travaillez-vous?
Alors sur la perdrix grise, donc il y a eu une étude très récente qu'on a dénommée Pégase. Alors Pégase, c'est un acronyme, c'est perdrix grise agriculture, un système à expliciter. Voilà, donc ça c'est une étude assez vaste qui a été mise en place suite à des inquiétudes du monde de la chasse en 2008. Où on a eu une très mauvaise reproduction et où les effectifs ont fortement baissé. Et donc, on a lancé une vaste étude sur une douzaine de terrains avec du radiopistage. Donc, du radiopistage, c'est-à-dire un émetteur qu'on met autour du cou de l'animal.
Et vous suivez par GPS
hein? Et non, alors c'est pas par GPS, c'est des ondes radio, du VHF, pour parler technique, qui permet de localiser les animaux, de savoir où ils se trouvent. Donc, par déduction, de savoir un peu quelle est leur activité... Si c'est une femelle qui ne bouge pas au printemps, pendant plusieurs jours, qui reste au même endroit, on sait qu'elle est en train de couver. Quand l'oiseau ne bouge plus du tout pendant quelques temps...
On se dit qu'il est peut-être mort.
Voilà, exactement. Et donc ça permet de retrouver un cadavre assez rapidement et déterminer les causes de mortalité.
Oui, donc j'imagine qu'il vous faut beaucoup aussi de petits radiopistages sur les animaux, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup
oui.
de pertes.
Il y a pas mal de pertes qui sont liées à de la mortalité naturelle, bien sûr. Alors oui, l'étude Pégase, c'est plusieurs centaines de perdrix qui ont été équipées d'un petit émetteur, effectivement.
Et qui a démarré donc il y a quelques années, qui va se terminer prochainement?
Donc il s'est terminé sur le terrain en 2011, et donc là on en est au stade de l'analyse de données.
Vous exploitez toutes les données.
Et des publications scientifiques. Voilà. Pour la perdrix rouge, l'effort a été mis plutôt ces dernières années sur la technique de comptage, puisque le comptage au magnétophone, au MP3 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une méthode de comptage qu'on utilise depuis assez longtemps. Mais on utilise aujourd'hui des méthodes statistiques beaucoup plus performantes pour arriver à déterminer la densité de perdrix rouges de façon relativement précise en fonction des conditions d'observation, en fonction des conditions de milieu. Et donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, de même qu'on travaille sur l'extension du réseau de suivi des populations.
Pour terminer cette émission, puisque vous travaillez sur la perdrix, mais pas seulement, est-ce qu'il y a des points communs justement de ces perdrix avec les autres petits gibiers sur lesquels vous travaillez, concernant justement l'évolution des populations?
Oui, sur les autres espèces. Donc si on compare au faisan commun, donc c'est un autre gallinacé, où la démarche est un peu similaire, sauf que le faisan commun, ça a été pendant longtemps Le gibier, je dirais qu'on lâche et qu'on prélève à la chasse assez rapidement. Les choses sont en train d'évoluer puisqu'on développe de plus en plus des populations sauvages. Enfin, les chasseurs sont volontaires pour développer de plus en plus de populations sauvages de faisans. Et puis, bon, pour ce qui est des lagomorphes, les lapins et les lièvres, eh bien, c'est, en termes d'évolution des populations, c'est un petit peu les mêmes tendances que pour les perdrix. Et c'est un petit peu la même chose aussi en termes d'explication de l'évolution, donc l'évolution de l'agriculture. Alors, bon, j'ai parlé d'agriculture, il faut surtout pas culpabiliser les agriculteurs. Les agriculteurs essaient de rentabiliser leur exploitation du mieux qu'ils peuvent, c'est leur gagne-pain. Par contre, c'est vrai que l'évolution de l'agriculture telle qu'on la connaît depuis maintenant un certain nombre de décennies n'est pas favorable au petit gibier.
Mais je vous remercie, François Retz, d'être venu nous parler des perdrix, et pas seulement, finalement. Et puis, donc, je renvoie au site internet de l'ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sur laquelle on retrouve justement les rapports que vous avez édités en compagnie de vos équipes sur les perdrix, le faisan. Et puis, on l'aura bien compris, la bartavelle est un élément, on va dire, qui se trouve à côté des perdrix grises.
C'est une très belle espèce, mais dont je n'ai pas l'honneur de m'occuper, puisque malheureusement, ou heureusement, elle vit en montagne.
Merci à vous, François Retz, et puis j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.